Bonsoir à tous et à toutes. Alors il est 18h, nous sommes sur Radio Galère 88.4 et nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, qui est notre émission hebdomadaire de soutien à la Palestine. Je suis Juliette de Palestine 13, je suis avec Sidi à la technique et Hachim le stagiaire. Palestine 13, c'est la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité. Je vous donne notre site internet, c'est www.assopalestine13.org. Notre page Facebook, c'est la page Palestine 13. Et si vous désirez nous joindre par mail, notre mail, c'est asso.palestine13@gmail.com. Alors ce soir, nous allons écouter l'enregistrement d'une conférence qui a été organisée par le collectif 13 Palestine en résistance. Cette conférence s'est tenue à l'IEP d'Aix-en-Provence, l'Institut d'études politiques, c'était le 14 novembre, et elle avait pour intitulé « Quel avenir pour Jérusalem ?». Elle a été animée, cette conférence, par une jeune palestinienne qui s'appelle Nada Awad et qui est diplômée de Sciences Politiques Paris et qui réside actuellement à Jérusalem, où elle a travaillé en tant que juriste spécialiste du droit humanitaire au Centre d'action communautaire de l'Université d'Al-Quds. Elle y était responsable des campagnes de sensibilisation et de défense des droits des Palestiniens de Jérusalem. Alors on sait que la question de Jérusalem est une question centrale de la cause palestinienne depuis l'occupation et l'annexion de l'Est de Jérusalem en 1967. Les gouvernements israéliens successifs ont mis en place des politiques de déplacement forcé des Palestiniens dans le but de changer les réalités territoriales et démographiques, et surtout à la suite de la déclaration de Trump par laquelle l'administration américaine reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, le gouvernement israélien accélère de plus en plus l'adoption de lois qui facilitent le transfert forcé des Palestiniens de Jérusalem. On parle maintenant de dépossession, de dépalestinisation, par toute une série de lois de ségrégation, d'annexion, d'apartheid, d'expropriation. Donc la conférence va se concentrer sur la situation actuelle à Jérusalem et sur les développements très inquiétants sur le terrain. Donc nous allons écouter dans un premier temps la première partie de cette conférence. Il y aura une pause au milieu de la conférence et puis la deuxième partie par la suite. Voilà, je vous laisse écouter la première partie de cette conférence de Nada Awad.
Faire une introduction un peu historique. Donc pour commencer, je vais prendre deux citations qui sont des citations de 1937 et de 1940. Donc des citations qui expliquent que le transfert forcé, c'est une stratégie qui a commencé bientôt dans l'idéologie sioniste. Je commence par la citation de Ben-Gourion. Donc, le transfert obligatoire des Arabes des vallées de l'État juif projeté, nous devons tenir à cette conclusion de la même manière que nous tenons à la déclaration Balfour. Plus encore, de la même manière que nous tenons au sionisme même. Yosef Weitz va dire en 1940, la seule solution est le transfert des Arabes vers les pays voisins. Pas un seul village ou une seule tribu ne doit rester. C'est notre droit de transférer les Arabes. Les Arabes devront partir. Mais nous avons besoin d'un moment opportun pour réaliser notre but. Par exemple, une guerre. Donc, en 47 jusqu'en 49, va se mettre en place une politique sous les directives d'un plan qui va être adopté par les forces sionistes en Palestine, qui va mettre en place le transfert forcé de la population, l'expulsion de la population palestinienne, pour créer un État juif en Palestine. Donc, sous les directives du plan D, qui est adopté par les chefs des forces sionistes, 531 villages et 11 quartiers urbains palestiniens vont être détruits et leurs populations vont être expulsées. On parle de 800 000 réfugiés palestiniens qui forment 80% de la population palestinienne. Des réfugiés palestiniens de 48-49, il y a 80 000 Palestiniens qui vont devenir réfugiés de l'ouest de Jérusalem, qui sera occupé en contravention avec le plan de partition qui était adopté à l'ONU en 47. 19 ans après la Nakba, donc la Nakba, la catastrophe de 48, va venir la Naksa en 1967, où les autorités israéliennes, le gouvernement israélien, va transférer de force entre 250 000 et 400 000 Palestiniens qui vont être aussi ou bien déportés vers en dehors des frontières de la Palestine, ou bien à l'intérieur même du territoire occupé. C'est une expulsion à travers donc deux opérations de guerre qui est planifiée déjà bien avant la Nakba. Mais aussi, il faut le noter, Israël va interdire complètement le retour des réfugiés dans leur pays. Le transfert, cependant, n'est pas une chose historiquement qui s'est passée et qui s'est arrêtée. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le transfert est une constante de la politique de colonisation sioniste. D'un côté, on colonise, d'un côté, on transfère la population qui existe sur le terrain, de l'autre côté, on colonise. Donc, je vais vous donner un exemple de ce qu'a dit Netanyahou en décembre 2003. Comme Ben-Gourion, qui parlait des Palestiniens comme des statistiques alarmantes, Netanyahou va dire « Si les Arabes forment 40% de la population, c'est la fin de l'État juif. Mais 20%, c'est aussi un problème. Si la relation avec ces 20% devient problématique, l'État est en mesure et en droit d'employer des mesures extrêmes. » Mais très récemment, en novembre 2018, donc ce mois, Netanyahou va dire « Le terme occupation ne veut rien dire. De grandes nations ont conquis et remplacé des populations et personne n'en parle. » Donc, le transfert forcé, pour lui, c'est tout à fait normal. Je vais donc vous parler aujourd'hui de deux politiques. L'une va se concentrer, donc, pourquoi on parle de l'apartheid ? On parle de l'apartheid à cause des politiques de domination mises en place de répression par le gouvernement israélien depuis. D'un côté, on va parler de la politique de la terre, donc de la dépossession des Palestiniens aux lois interdisant leur développement au niveau de l'urbanisme. Et d'un autre côté, on va parler du droit de résidence des Palestiniens qui fait en sorte, mis en place par le gouvernement israélien, afin de transférer la population locale. Et donc, on va montrer comment c'est des politiques d'apartheid qui visent les Palestiniens. J'ai dit que les Israéliens vont détruire des centaines de villages palestiniens, vont expulser la population, mais ensuite, la phase première va être de légitimer ou de légaliser, entre guillemets, selon le droit israélien, qui est en contravention, bien sûr, avec le droit international, la dépossession des Palestiniens. Donc, après avoir dépossédé 800 000 réfugiés palestiniens, le gouvernement israélien va prendre des mesures, va mettre en place des lois. Par exemple, la loi des absents et des propriétés abandonnées en 1950, afin de légitimer, avec celle de 1953, de manière de valider, de manière rétroactive, dans beaucoup de cas, l'acquisition des terres, en expliquant parfois que c'était pour des nécessités, par exemple, militaires. Mais en fait, c'est tout à fait pour la construction israélienne et pour la colonisation israélienne. À travers ces lois et à travers la dépossession des Palestiniens et l'interdiction de leur retour, Israël va pouvoir obtenir, donc de force, 93% des terres dans les territoires reconnus internationalement par la communauté internationale. Donc 93% des terres, tandis que le Fonds national juif, qui achetait des terres pour coloniser depuis le début du XXe siècle, n'avait acquis que entre 7 et 8% des terres de Palestine mandataire. Donc, à travers ces lois, Israël va mettre en place, va définir les personnes, les Palestiniens qui ont été expulsés ou qui ont fui par la guerre et qui ont été interdits de retourner, donc comme des absents. Leur propriété est alors placée sous le contrôle du gouvernement israélien, ou ce que va être appelé le gardien de la propriété des absents. Donc c'est cette loi qui fait le principal instrument juridique qui a permis l'expropriation par Israël de la terre des Palestiniens réfugiés, externes ou même internes, donc ceux qui sont restés dans le territoire de la Palestine mandataire. Mais en plus, en 1951, la loi relative aux propriétés de l'État va expliquer que la réaffectation des biens doit se faire à l'État dans tous les lieux dans lequel le droit de l'État d'Israël s'applique. L'autorité des terres d'Israël va gérer les terres de l'État et qui, de par la loi, selon cette loi donc, ne peuvent être utilisées, développées ou possédées par des non-juifs. Donc on voit déjà comment ces lois mettent en place cette politique d'apartheid. De plus, la loi fondamentale d'Israël, les terres d'Israël, stipule qu'à la terre détenue par l'État d'Israël, par l'autorité de développement israélienne ou par le Fonds national juif, ne saurait être transféré d'aucune manière, sa gestion étant placée de façon permanente sous leur autorité. Donc on voit bien qu'à travers la loi, Israël va institutionnaliser ce système d'apartheid. Et pour parler maintenant spécifiquement de la situation à Jérusalem. Donc Jérusalem, l'est de Jérusalem va être occupé et annexé de manière illégale selon le droit international en 1967. Mais Israël ne va pas annexer l'est de la ville comme défini par la Jordanie, donc entre 48 et 67, l'est de la Jordanie, l'est de Jérusalem tel que défini par la Jordanie, tel que contrôlé par la Jordanie, c'est ce que vous voyez en violet sur la carte. Donc c'est une petite partie, c'est autour de 600 hectares. Israël va annexer à Jérusalem, de la Cisjordanie, 6400 hectares de plus, ce qui fait que l'annexion, c'est l'annexion de 7000 hectares de la Cisjordanie qui va devenir, avec l'ouest de Jérusalem, la municipalité de Jérusalem, ce que le gouvernement israélien va appeler la capitale unifiée de l'État d'Israël. En fait, c'est l'annexion illégale de l'est de la ville. Pour vous donner un exemple d'une loi d'apartheid qui explique vraiment la situation de Jérusalem, l'est et l'ouest, comme j'ai dit, de l'ouest de la ville vont être expulsés autour de 80 000 Palestiniens qui habitaient l'ouest de la ville. Ces 80 000 Palestiniens, selon le droit israélien, n'ont pas le droit d'aller vers les cours de justice israélienne pour réclamer leurs biens. Cependant, pour les Israéliens juifs qui habitent à l'ouest de la ville ou qui habitent dans le pays ou qui sont même à l'étranger, ils peuvent réclamer les propriétés qu'ils auraient perdues suite à la guerre de 48. Donc ils peuvent depuis cette loi de 70 aller réclamer dans les cours israéliennes leurs propriétés qui se trouvent à l'est de la ville. Ce qui se passe, c'est en réalité, par exemple, Sheikh Jarrah, c'est ce que vous voyez, c'est un quartier palestinien de l'est de la ville, se développe alors une colonie, parce que les Israéliens vont aller réclamer des propriétés qu'ils auraient eues avant 67. Jusque-là, les quatre maisons en bleu sont les maisons qui ont déjà été accordées, rendues, selon le droit israélien, entre guillemets, rendues aux Israéliens. Dans ces maisons vivaient des Palestiniens qui ont été expulsés de l'ouest de Jérusalem et qui n'ont pas le droit de réclamer leur propriété dans l'ouest de la ville. Mais aujourd'hui, on vous parle de dizaines de maisons qui courent ce risque, ce même risque, et ce qui explique cette inégalité face à la loi, donc, et ce système d'apartheid par les lois. La phase numéro 2, après la dépossession massive des terres et des propriétés des Palestiniens, va venir une politique de zonage et de planification urbaine discriminatoire qui ne permet pas aux Palestiniens de s'étendre et de se développer. Donc en 1973, le gouvernement israélien va mettre en place une commission qui va décider que les Palestiniens ne peuvent dépasser 30% de la population de Jérusalem. Donc ça, c'est une commission du gouvernemental et la décision va être adoptée par le gouvernement. Donc ça devient une directive gouvernementale. Les Palestiniens ne peuvent pas dépasser les 30%. Comment on arrive là? Il y a beaucoup de politiques qui vont être mises en place pour ne pas permettre le développement palestinien. Entre 2004 et 2009, va discuter un plan d'urbanisme qui s'appelle le plan 2020 à Jérusalem. Il va réviser le ratio à 60-40 parce que, selon les gens qui ont mis en place ce plan, il n'est pas possible d'atteindre 70-30 et il le révise à 60-40. Donc depuis, il faudrait ne pas dépasser, les Palestiniens ne peuvent pas dépasser les 40% de la ville pour que la ville, la capitale juive, reste une capitale juive. Donc ça, c'est pour le plan d'urbanisme. Mais comment est-ce que ça se met en place en réalité? D'abord, une des premières politiques, c'est la confiscation des terres qui continue depuis 67. Ce qu'il faut noter, c'est que 35% de l'est de Jérusalem, des terres de l'est de Jérusalem, sont expropriées pour la construction de colonies. Ce que vous voyez en marron sur la carte, ce sont les colonies qui ont été mises de manière très stratégique dans l'est de Jérusalem, implantées, afin de barrer le développement des quartiers palestiniens, donc mise entre les quartiers palestiniens pour ne pas leur permettre de s'étendre. Aujourd'hui, il existe dans l'est de Jérusalem seulement 15 colonies où habitent plus de 220 000 colons. En plus de ça, les Israéliens vont utiliser le prétexte de développement de zones vertes pour aussi limiter le développement des quartiers palestiniens dans l'est de Jérusalem. La municipalité va donc déclarer que 22% de l'est de Jérusalem, ce sont des zones vertes. Donc à l'intérieur de zones vertes, il est interdit de construire. Le parc que vous voyez là, les espaces verts sur la carte, sont des parcs aussi implantés de manière stratégique pour barrer le développement des quartiers palestiniens qui se trouvent Ouad Ejoz et Al-Essaoui, des deux quartiers palestiniens. Et donc, ces zones n'ont aucune spécificité, ces terres n'ont aucune spécificité naturelle. Et c'est vraiment un prétexte utilisé pour barrer le développement. Pour voir la dernière manière d'utiliser, c'est que 30% des terres à l'est de Jérusalem ne sont pas planifiées. Donc les Palestiniens ne peuvent pas construire parce que le gouvernement n'a pas planifié ces terres. Donc il reste pour les Palestiniens de l'est de Jérusalem seulement 13% comme zone constructible. Et ces zones-là sont déjà extrêmement habitées. Donc c'est des zones qui ont été déjà habitées en 67 et qui sont aujourd'hui ont des densités très importantes de population. Donc il n'y a plus beaucoup d'espace. Le grand problème à Jérusalem pour les Palestiniens, c'est qu'il y a une énorme crise de logement. Il y a une grave pénurie de logements. Et les plans israéliens permettent la construction d'autour de 400 logements par an, unités de logement, tandis qu'il faudrait 1500 unités de logement par an pour que les Palestiniens puissent vivre et que ça soit adapté à la croissance démographique palestinienne. Je vais donner quelques statistiques pour montrer les différences. Donc, comme j'ai dit, dans l'est de Jérusalem seulement, les Palestiniens ont le droit de construire sur 13% seulement, tandis que les colons israéliens peuvent construire sur 35% de l'est de Jérusalem occupé. Le taux de construction chez les Palestiniens est d'entre 25 et 75%, et il est permis de construire entre 2 à 3 étages. Dans l'ouest de Jérusalem, il est permis de construire entre 75 et 125%, et dans les colonies à l'est, il est permis de construire entre 140 et 200%, où on peut construire jusqu'à 8 étages. Les Israéliens donnent autour de 7% des permis de construire aux Palestiniens, qui forment autour de 40% de la population, tandis qu'ils donnent 93% des permis de construire aux Israéliens. Les Palestiniens qui payent les mêmes taxes que les Israéliens vont recevoir seulement 10% du budget de la municipalité, tandis que les Israéliens vont recevoir 90% du budget de la municipalité. Donc, en plus de ça, entre 1967 et 2014, malgré le fait que la population palestinienne a quadruplé, les Palestiniens ont seulement reçu 4706 permis de construire. Donc, on voit que le gouvernement israélien donne des permis de manière très discriminatoire. Par exemple, en 2005 et 2009, les Palestiniens de l'Est reçoivent 603 permis de construire, tandis qu'ils sont 40% de la population, tandis que les colons reçoivent 662 permis de construire, et les Israéliens à l'Ouest en reçoivent 1932. Donc on voit que les Israéliens utilisent les permis de construire comme un moyen de limiter le développement. En plus de ça, il y a des lois de plus en plus discriminatoires qui visent la démolition des maisons des Palestiniens. Selon un parlementaire israélien qui a fait passer une loi qui permet la démolition plus facile encore des maisons construites sans permis de construire, il explique que les Palestiniens sont hors la loi, ce sont des gens hors la loi. La plupart de la population juive, selon lui, obéit à la loi, et ceux qui enfreignent la loi sont punis. Mais dans le secteur arabe, donc on n'est même pas palestinien, on est arabe, il y a une inclination de penser que la loi, c'est une recommandation. Si on a une autorisation de construire, c'est bien, sinon c'est pas grave. Donc c'est lui qui dit ça, malgré le fait que les statistiques que je vais vous dire montrent vraiment le contraire. Dans l'ouest de Jérusalem, il y aurait 78,4% des violations à l'urbanisme, donc de gens qui construisent sans permis de construire, mais seulement 27% d'ordre de démolition. Du côté palestinien, il y aurait 21,5% des violations à l'urbanisme, donc des constructions sans permis. Cependant, les Palestiniens reçoivent 84% des ordres de démolition. Donc on voit que c'est une politique qui cible les Palestiniens de manière stratégique pour ne pas permettre leur développement. Un tiers de la population palestinienne, selon l'ONU, donc autour de 100 000 Palestiniens, vivent aujourd'hui à Jérusalem sous le risque d'avoir leur maison démolie parce qu'elle est construite sans permis, qu'ils n'arrivent pas à avoir de l'autorité israélienne. La démolition de maisons donc, est un instrument démographique discriminatoire. Entre 2009 et 2017, plus de 876 structures palestiniennes ont été démolies, déplaçant ainsi 1723 Palestiniens. Depuis janvier 2018, il y en a 157.
Alors, nous faisons une pause musicale au cours de laquelle nous allons écouter une chanson de Kerry James, qui est de son nom d'état civil Alix Mathurin. Il est né en Guadeloupe et il est un rappeur considéré par la presse spécialisée et le public comme la figure de proue du rap politique. Son œuvre évoque la vie en banlieue, les inégalités dans la France actuelle. Donc on va écouter un extrait qui est sorti de son album intitulé Réel, qui est paru en 2009. Cet extrait qu'on va entendre, c'est Avec le cœur et la raison, et c'est un plaidoyer pro-palestinien dans lequel Kerry entend dénoncer des faits sans faire pour autant dans l'émotionnel, même s'il reconnaît qu'il est très ému. Il nous fait un état des lieux de la situation en Palestine, de l'occupation, de l'oppression israélienne, et pour alimenter son inspiration, il s'est rendu lui-même en Palestine. Il y a réalisé d'ailleurs un documentaire, et il fait preuve en fait d'un sens de la diplomatie assez développé. Ça peut paraître peu courageux, mais visiblement cette prudence lui a épargné une polémique pour antisémitisme que d'autres rappeurs qui s'étaient attaqués au sujet ont eu à affronter. Lui, il a préféré être plus diplomate. Donc on écoute cet extrait de son album intitulé Réel, et c'est Avec le cœur et la raison.
De leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. Je n'y peux rien si la vérité vous est vraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serais pas complice du silence anticolonialiste. Ce n'est pas être antisémite, je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leurs droits les plus fondamentaux violés. L'héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le ruiner, c'est tenter d'effacer l'histoire. Et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur et une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Il est question de faits établis, pas de point de vue. Ma raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. Plus de 1000 pour 10 à la dernière intifada. C'est ça la guerre, ça la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par ton rage. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je peux pas ne pas me positionner. C'est un appel à partager leur peine, mais les ignorants diront que c'est un appel à la haine. On nous nourrit par l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant, quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison.
Hold me.
L'humiliation est violente, constante aux frontières des checkpoints. La liberté est agonisante. J'écris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation.
Voilà, alors nous écoutons maintenant la deuxième partie de la conférence de Nada Awad sur quel avenir pour Jérusalem.
Un autre outil utilisé par Israël au niveau des frontières et de la terre, et l'idée du Grand Jérusalem. Donc, c'est une idée qui existe depuis très longtemps chez le gouvernement israélien. Le Grand Jérusalem, c'est l'idée de redessiner les frontières de la municipalité de Jérusalem en incluant les colonies qui existent autour de la ville de Jérusalem. Donc agrandir la municipalité aux colonies. Autour de Jérusalem, il y aurait une concentration des colonies, qui est aussi une chose stratégique faite par les Israéliens. Donc cette concentration, il y aurait 65% des colons qui habitent dans la zone autour de Jérusalem qu'Israël voudrait annexer et introduire dans la municipalité de Jérusalem. Ce qui voudrait dire que de cette manière, le gouvernement israélien, en changeant les frontières, pourra rajouter 120 000 colons israéliens à la municipalité. Mais de même, cette proposition de loi qui se trouve aujourd'hui plusieurs à la Knesset voudrait couper les quartiers palestiniens qui se trouvent déjà derrière le mur de séparation et d'annexion, donc de la municipalité de Jérusalem. Il y a deux quartiers très peuplés palestiniens qui sont dans la municipalité de Jérusalem, qui ont été coupés par le mur qui a commencé à être construit en 2003. Et cette population qui se trouve déjà derrière le mur serait coupée de la municipalité, donc en enlevant ainsi 140 000 Palestiniens à travers le fait de redessiner les frontières. La proposition de loi, voilà, qui se trouve depuis 2017 à la Knesset, un des exemples, voudrait rajouter ces 12 colonies à la municipalité en enlevant les quartiers palestiniens derrière le mur. Un exemple de un cas de transfert forcé qui est en cours aujourd'hui, peut-être que vous en avez entendu parler dans les nouvelles, dans les informations, c'est le cas de Khan el-Ahmar. Khan el-Ahmar se trouve dans cette région qu'Israël voudrait annexer à la municipalité de Jérusalem. Donc il y a dans ce cas très spécifique, c'est un des cas, mais qui inclut de nombreux cas, 32 familles et 173 personnes, ce sont des bédouins qui habitent cette région. Israël voudrait annexer cette région, mais en enlevant la population locale qui se trouve dans cette région. Donc l'idée de transférer cette population, c'est d'enlever les gens, mais d'annexer la terre vide de Palestiniens et d'étendre les colonies qui se trouvent déjà dans ce territoire. La Cour suprême israélienne, en mai 2018, va permettre, donc donner le feu vert au gouvernement israélien pour la démolition de Khan el-Ahmar. Ça va être arrêté le mois de novembre à cause de la pression internationale, mais on pense que ça va se faire de toute façon, parce que de toute façon la Cour suprême a déjà donné l'accord au gouvernement pour démolir Khan el-Ahmar. Le mur, je sais que vous ne voyez pas bien sur la carte, mais c'est l'idée de vous montrer comment le mur zigzague les régions et dessiner. Ça, c'est le mur qui voudrait donc annexer la partie dont je vous parlais en enlevant les parties palestiniennes et en intégrant les colonies. Ici, ce que vous voyez en haut de la carte, c'est les colonies, par exemple, Ma'ale Adomim, qui est une des plus grandes colonies dans la région autour de Jérusalem. Mais, comme je disais, ce ne sont pas seulement des politiques de terre ou des politiques de dépossession qui sont en place par le gouvernement israélien. Il y a aussi des politiques démographiques de résidence. Comme vous le savez peut-être, en 1950, le Parlement israélien adopte la loi qui permet à tous les Juifs du monde de retourner en Israël. C'est retourner, c'est selon la loi, donc d'immigrer en Israël. Sauf que les Palestiniens, les réfugiés palestiniens n'ont pas le droit de retourner dans leur terre. En même temps, le gouvernement israélien va mettre en place un transfert de la population palestinienne dans Jérusalem afin de créer cette supériorité démographique dont on parlait déjà dans les citations de Ben-Gourion et de plusieurs membres du gouvernement israélien. Donc c'est l'idée qu'il faut créer à tout prix une majorité écrasante juive dans Jérusalem. Les Palestiniens de Jérusalem, lorsqu'Israël occupe et annexe de manière illégale l'est de la ville, vont recevoir un statut de résident permanent. Donc moi, en tant que Palestinienne, je n'ai pas de citoyenneté, je suis apatride, mais j'ai un statut que m'a donné le gouvernement israélien qui s'appelle le statut de résident permanent. C'est un statut qui est révocable. Donc ma présence dans ma ville... Et je cours le risque toujours de qu'on me révoque mon statut de résident. Et la loi israélienne donne au ministre de l'Intérieur le droit de révoquer notre statut de résident. Il existe, nous sommes à Jérusalem autour de 300 000 Palestiniens, et notre entrée et résidence à Jérusalem est comme un privilège révocable donné par le gouvernement et pas un droit inhérent. Même si on habite à Jérusalem depuis des centaines et des centaines d'années, c'est pas un problème. On est considéré comme des immigrés. Entre 67 et 2015, le gouvernement israélien va révoquer plus de 14 500 statuts de résidents de Jérusalem. Et on voit que ces révocations s'accélèrent après 95, puisque entre 1995 et 2015, il y a plus de 11 500 statuts de résidents qui vont être révoqués. Cette révocation se fait sur la base de plusieurs critères. D'abord, si je décide de vivre à l'étranger plus que 7 ans, le ministre de l'Intérieur me révoque ma résidence. Mais en plus de ça, si j'obtiens la nationalité, la citoyenneté ou la résidence permanente à l'étranger, le ministre de l'Intérieur est en droit, selon le droit israélien, de me révoquer ma résidence. Mais depuis 1995, la loi a été changée et donc les Palestiniens de Jérusalem doivent prouver constamment que leur centre de vie est Jérusalem pour pouvoir maintenir leur résidence. Ce qui veut dire que les Israéliens vont envoyer souvent des gens pour être sûrs que la personne qui habite à Jérusalem, un Palestinien ou une Palestinienne qui habite à Jérusalem, habite bien dans l'adresse donnée. Parce que si je décide d'aller habiter à Bethléem ou à Ramallah, qui sont vraiment tout près de chez moi, le ministre de l'Intérieur peut me révoquer ma résidence. Donc l'idée, c'est qu'ils ont facilité les critères qui permettent la révocation de la résidence, et c'est aux Palestiniens à eux-mêmes de prouver qu'ils sont bien des résidents et que leur centre de vie est Jérusalem, à travers des dizaines de documents qu'ils doivent amener au ministère de l'Intérieur lorsqu'ils leur envoient un document en disant « Votre résidence a été révoquée parce que votre centre de vie n'est pas Jérusalem ». C'est à eux d'aller prouver qu'ils payent bien des taxes d'habitation, qu'ils louent bien un appartement, qu'ils ont une maison, qu'ils payent l'électricité, l'eau, les factures de téléphone, etc., que leurs enfants sont bien dans des écoles à Jérusalem. Donc c'est à nous de prouver que notre centre de vie est Jérusalem pour pouvoir maintenir notre résidence. En plus de ça, le grand problème depuis 2003, c'est que les Palestiniens de Jérusalem, on est autour de 300 000 donc, lorsqu'on veut épouser quelqu'un du reste de la Cisjordanie, parce que l'est de Jérusalem, selon le droit international, fait partie de la Cisjordanie, lorsqu'on veut épouser quelqu'un d'en dehors de Jérusalem-Est, on a besoin de faire un regroupement familial, même si Jérusalem fait partie de la Cisjordanie. Donc, depuis 2003, le gouvernement israélien, la loi, fait en sorte qu'on ne peut pas faire une demande de regroupement familial si l'homme a moins de 35 ans ou la femme a moins de 25 ans. Donc moi, si je vais épouser quelqu'un en dehors de Jérusalem, il faut que l'homme ait plus de 35 ans pour que je puisse faire une demande de regroupement familial pour que mon époux puisse venir vivre à Jérusalem avec moi. En plus, il faut que je prouve moi-même que j'ai mon centre de vie est bien Jérusalem. Et en plus de ça, toutes nos familles ne doivent pas être, selon les Israéliens, un risque sécuritaire. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, un risque sécuritaire, mais ce sont les trois critères qu'il faut que nous, on prouve pour qu'on puisse faire une demande de regroupement familial. Entre 2000 et 2013, 43% des demandes de réunification familiale ont été refusées par les Israéliens. Donc presque la moitié des regroupements familiaux n'ont pas été approuvés. Mais en plus de ça, depuis 2003, chaque année, la personne qui fait un regroupement familial doit renouveler son permis de vivre à Jérusalem. Donc si par exemple, moi j'épouse quelqu'un, qu'on lui donne une première fois un regroupement familial, la personne ne reçoit pas le même statut que moi, donc de résident permanent, mais reçoit un permis renouvelable tous les ans. Donc tous les ans, il faut qu'on repasse par cette procédure pour prouver tout ce qu'on doit prouver pour que la personne puisse recevoir de nouveau un titre de séjour qui lui permet de vivre avec moi à Jérusalem. Et si ça ne marche pas, la personne ne pourra plus vivre à Jérusalem de manière légale selon le droit israélien, qui n'est pas légal selon le droit international, mais ça voudrait dire que je vais devoir aller vivre avec mon épouse, et je décide ça, à l'extérieur de Jérusalem. Et si moi je vis à l'extérieur de Jérusalem, donc on me retire ma résidence parce que je ne peux pas prouver mon centre de vie à Jérusalem. Donc vous voyez que le système est fait de sorte à ce que, voilà, ça facilite le transfert forcé des Palestiniens à Jérusalem. En plus de ça, les enfants nés de ces mariages, donc d'un parent de Jérusalem et d'un parent de l'extérieur de Jérusalem, ne sont pas enregistrés automatiquement. Ces enfants aussi, il faut que les parents prouvent qu'ils ont un centre de vie pour pouvoir les enregistrer. Lorsque les parents n'arrivent pas à prouver ça, le gouvernement israélien ne leur donne pas de statut de résident, de papier. Donc ces enfants, en plus d'être apatrides, seront aussi sans papier. On estime à 10 000 le nombre de ces enfants. Donc, ce qu'on voit à travers ce que j'ai présenté, c'est que le transfert qu'on appelle aujourd'hui silencieux, parce que ce n'est pas un transfert comme en 48, où c'était, les gens étaient expulsés de manière massive, mais c'est un transfert qui est planifié, qui est institutionnalisé, qui est intégré dans les lois mêmes de l'occupation. Donc, depuis 67, Israël a développé ce système de manière légale, dans ses lois, dans la politique et dans le militaire, afin d'atteindre des buts démographiques. Le transfert forcé de la population palestinienne, il faut le rappeler, c'est un crime de guerre, selon l'article 8 du statut de Rome, et peut s'élever à un crime contre l'humanité, selon l'article 7 du statut de Rome, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque, 1, généralisée, et 2, systématique. Donc, on voit que la situation à Jérusalem est une situation où il y a des crimes de guerre et où le gouvernement israélien est en train de commettre même des crimes contre l'humanité. Il faut aussi rappeler que la déportation, le transfert forcé de la population, ce n'est pas seulement le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant, mais aussi c'est par d'autres moyens, par exemple par les moyens coercitifs mis en place que je vous ai expliqué et que je vais prendre quelques autres exemples aussi plus tard. Donc, comme on disait dans l'introduction, suite à la déclaration Trump, il y a une intensification réelle des politiques de transfert des Palestiniens dans la pratique, par exemple le cas de Khaled Mahmoud, mais aussi dans les lois. Et je vais prendre quelques exemples. En plus donc, des politiques que j'ai expliquées, il y a une répression réelle à la résistance à l'apartheid. Donc les Palestiniens qui vont manifester contre ces lois ou contre n'importe quelle des politiques israéliennes, les Israéliens vont utiliser une force disproportionnée contre les manifestants. Je vais prendre juste deux exemples. La détention entre 67 et 2015 partout en Cisjordanie et à Gaza contre les Palestiniens, c'est autour de 800 000 Palestiniens qui ont été détenus. Ça représente 40% de la population des hommes. Donc 40% des hommes palestiniens ont déjà été en prison. Entre 67 et 2015, il y a une estimation que 50 000 Palestiniens ont été détenus de manière administrative, donc sans avoir de preuves ou quoi que ce soit contre eux, sans avoir de jugement ou d'inculpation. Voilà, merci. Et donc, le cas de Jérusalem spécifiquement, donc on disait que c'est une population d'à peu près 300 000, en 2007, il y a plus de 2 000 prisonniers politiques palestiniens de Jérusalem, et autour de 1138 prisonniers politiques sont des enfants. Jusqu'à 20 ans de prison, un enfant ou un adulte peut courir pour juste avoir lancé une pierre. Donc ça, c'est une loi aussi qui est rentrée en 2015 qui a permis de faciliter la détention et l'emprisonnement des Palestiniens. Entre 2006 et 2016, Israël va révoquer la résidence de 12 Palestiniens, donc en inventant un nouveau critère qui est que le ministre de l'Intérieur de l'époque en 2006 et puis le deuxième, le ministre d'après en 2016, va décider de révoquer la résidence de Palestiniens sur la base de manquements d'allégeance. Donc ça, c'est un troisième critère qui va être introduit dans la loi en mars 2018. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur israélien peut révoquer la résidence d'un Palestinien sur la base non définie de manquement d'allégeance. Elle est définie d'une manière tellement large que ça peut être n'importe qui. Alors, le manquement d'allégeance, c'est un acte terroriste, mais c'est aussi l'assistance ou l'incitation à un acte terroriste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, assister ou inciter ? C'est pas défini. Ou la participation à un groupe terroriste. Alors, il faut rappeler qu'à Jérusalem, en Israël, dans la loi israélienne, tous les partis politiques palestiniens sont des groupes terroristes, selon la loi. Donc, si je fais partie de n'importe quel... si je suis membre d'un parti politique, le ministre de l'Intérieur peut juste dire que je suis membre d'un groupe terroriste et peut me révoquer ma résidence, donc mon droit de vivre à Jérusalem. Donc, c'est une évolution très importante qui est très alarmante et qui fait très peur aux Palestiniens de Jérusalem, parce que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui n'a pas besoin d'utiliser les 7 ans, la citoyenneté à l'étranger ou même le centre de vie, et peut juste dire que la personne a donc commis un acte ou est membre d'un parti politique, et c'est suffisant pour révoquer la résidence de Palestiniens. Et donc les 12 cas de révocation de résidence se sont passés bien avant l'adoption de la loi. Donc entre 2006 et 2016, et la loi n'est venue juste affirmer cela en 2018, en mars. Mais c'est aussi pour les Israéliens la suppression de la société civile. En 2000, il y avait 55 organisations, donc organisations des droits de l'homme, organisations culturelles à Jérusalem, qui étaient considérées illégales et fermées par le gouvernement israélien. En 2015, il y en a 321. Donc, Israël suit une politique de supprimer la société civile qui se mobilise contre l'apartheid. Mais aussi à travers l'adoption de lois, je donne un exemple, la loi anti-boycott, où il y a des lois qui interdisent le boycott, mais en plus de ça, il y a une proposition de loi qui est très récente, on ne pense pas qu'elle va passer, mais c'est une proposition qui est aujourd'hui à la Knesset, qui est au Parlement israélien, qui permettrait l'emprisonnement jusqu'à 7 ans des personnes qui appellent au boycott d'Israël. Mais en plus des mesures qui sont prises contre les attaquants présumés eux-mêmes, il y a des mesures qui sont prises contre les familles entières d'attaquants présumés. Donc ce sont des peines collectives telles que la démolition de maisons, de familles, de gens qu'Israël va déclarer que c'était quelqu'un qui a fait une attaque. Donc depuis 1967, Israël a détruit en représailles des centaines de maisons palestiniennes dans les territoires occupés, mais à Jérusalem depuis novembre 2014, ce sont 16 maisons qui ont été détruites ou fermées de manière punitive, déplaçant ainsi 63 Palestiniens. La photo que vous voyez, c'est la photo d'une maison qui n'a pas été démolie, mais où Israël a décidé, le gouvernement israélien a décidé de fermer la maison avec du béton. Donc les gens peuvent passer à côté de chez eux, et bien, ils voient leur maison de dehors, mais à l'intérieur, elle est remplie de béton jusqu'au plafond. Donc vous voyez l'entrée, la porte, la lumière et tout, mais la maison n'est plus utilisable. Donc ce sont des peines collectives qui sont interdites selon le droit international complètement, selon la Convention de Genève qui est appliquée dans les situations d'occupation. Mais c'est aussi d'autres politiques de peine collective qui sont utilisées comme des moyens de transfert. Donc ces Palestiniens à qui on va fermer les maisons ou on va démolir leurs maisons vont être transférés de force. Mais en plus de ça, il y a des cas depuis 2017 où il y a des familles entières à qui on va révoquer la résidence sur la base de regroupement familial. Donc ce sont des gens qui habitent à Jérusalem sur la base de regroupement familial. Dans le cas d'une famille, ce sont 12 personnes à qui on a révoqué ce statut. Et même la mère de l'attaquant présumé, on lui a révoqué son statut de résidente permanente. Donc on voit qu'il y a une intensification des moyens de transfert. Et aujourd'hui, ces cas sont toujours dans les cours et on attend d'avoir des jugements dans ces cas. Mais il y a aussi de nouvelles législations pour supprimer la résistance palestinienne, pendant la tentative de supprimer la résistance palestinienne à l'apartheid. C'est un des exemples qui est affreux, c'est En mars 2018, le Parlement israélien a légalisé la détention des corps des Palestiniens tués. Donc, en plus de détenir les Palestiniens lorsqu'ils sont vivants, lorsque un Palestinien est tué par la police israélienne ou par l'armée d'occupation, la loi permet aujourd'hui aux Israéliens de les détenir. C'est-à-dire, c'est une des formes de peine collective contre la famille. C'est très important pour la famille de pouvoir enterrer le membre de leur famille, surtout dans la culture musulmane où c'est important de pouvoir enterrer aussi rapidement que possible le défunt. Dans ces cas, il y a des Palestiniens qui sont aujourd'hui dans des frigos israéliens depuis des mois et des mois, et même une personne, ça fait presque 2 ans. Je vous donne juste un exemple, le cas de Hassan Manasra. Il a été tué, selon Israël, disait que il voulait faire une attaque au couteau. Il avait 15 ans. Il aurait pu être immobilisé très facilement. Il avait un couteau peut-être à la main, mais il a été tué par balle par la police israélienne. Et son corps va être détenu pendant 8 mois. Son père, vous voyez dans l'image, va se battre pendant 8 mois avec toute sa famille pour pouvoir juste enterrer leur fils. Une autre proposition de loi qui se trouve aujourd'hui à la Knesset faciliterait la peine de mort pour, entre guillemets, les terroristes. Donc, elle est soutenue par Netanyahou. Elle a passé la première lecture à 52 voix pour et 49 voix contre. Donc, pour conclure, il y a un débat qui est énorme pour qualifier la situation de manière juridique. Est-ce que c'est... Donc, on a vu le transfert forcé, l'occupation prolongée, l'annexion de facto, le colonialisme, l'apartheid. Mais, selon le rapport même des Nations Unies, il est clair qu'Israël est coupable d'imposer au peuple palestinien un régime d'apartheid, ce qui constitue un crime contre l'humanité dont la prohibition est considérée comme une norme impérative en droit coutumier. Donc, aujourd'hui, ce qui est impératif, c'est pas de se demander c'est quoi la situation en Palestine. On sait très bien qu'il existe un régime d'apartheid. Et si j'ai parlé juste du cas de Jérusalem, c'est un système d'apartheid, un régime qui s'applique partout, contre tous les Palestiniens, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient à l'intérieur du territoire, qu'ils soient en Cisjordanie, à Gaza ou réfugiés à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, il faut agir et combattre l'apartheid.
Alors nous faisons une deuxième pause musicale et nous allons écouter le trio Joubran qu'on a l'habitude d'entendre sur Galère. C'est un extrait de l'album The Long March. The Long March, c'est un tournant pour ce groupe, pour le trio Joubran. C'est un nouveau cap dans leur conviction musicale. Par leur musique envoûtante, ils rendent hommage aux luttes et à l'oppression des peuples, de tous les peuples autochtones, et affirment en particulier que leur musique prend part à la lutte du peuple palestinien pour la reconnaissance et la libération. Cet album est le fruit d'une longue gestation. Ils se sont notamment associés au légendaire Roger Waters, qui est un fervent supporter du boycott, surtout pour un des titres de l'album, Carry the Earth, qui est dédié à tous ceux qui résistent pour leur terre, mais surtout à un événement tragique lorsque 4 jeunes cousins ont été assassinés en 2014 en jouant au football sur une plage à Gaza. Donc The Long March ouvre une voie nouvelle dans la musique du trio Joubran et nous écoutons cet extrait. Thank you. Alors, avant de conclure cette émission, je voulais revenir un petit peu sur ce qui se passe à Jérusalem, ce dont Nada Awad vient de nous parler dans sa conférence, pour parler de 84 familles palestiniennes qui habitent dans le quartier de Silvan, qui est le quartier historique de Jérusalem-Est. Et ces 84 familles palestiniennes craignent un nettoyage ethnique imminent, alors que ces familles vivent là depuis les années 50, qu'elles ont des papiers pour prouver qu'elles vivent là. Elles ont notamment des contrats de fourniture d'électricité et d'eau, etc. La Cour suprême israélienne a autorisé un groupe de colons à poursuivre une procédure judiciaire contre ces Palestiniens. Et le tribunal a décidé que l'affaire devrait être résolue par le tribunal d'instance de Jérusalem plutôt que par la Cour suprême. Le groupe israélien de défense des droits de l'homme qui s'appelle B'Tselem a déclaré qu'en fait la Cour suprême approuvait la grande initiative visant à déposséder les Palestiniens depuis 1967. C'est la proximité de ce quartier de Silvan avec la vieille ville, le bassin historique que représente ce quartier, qui le rend important pour les groupes de colons israéliens qui tentent de consolider le contrôle juif sur tout ce quartier et sur les quartiers palestiniens environnants. Ça leur permet de contrecarrer toute possibilité que ces zones deviennent une partie de la capitale palestinienne, Jérusalem-Est, comme c'était prévu au départ. Ces familles palestiniennes sont donc devenues une cible du nettoyage ethnique. Il revendique, c'est un habitant de ce quartier qui nous dit, il revendique un patrimoine historique et culturel à Silvan, affirmant qu'il s'agissait de la cité de David. C'est lié à l'histoire, à la religion et à la politique de la situation ici. Et cet habitant nous dit encore, le combat n'est pas terminé, nous allons continuer à présenter des requêtes et peut-être même recourir aux tribunaux internationaux. Environ 80% des personnes qui résident dans ce quartier sont des réfugiés de 1948 venus de toute la Palestine et aujourd'hui ils veulent nous déplacer à nouveau. Pourtant, Silvan, c'est un quartier relativement pauvre et dépeuplé, mais le manque d'assainissement, la ghettoisation de cette zone sont particulièrement frappants. Enfin, les routes n'ont pas de trottoir, elles sont à peine assez larges pour laisser passer une voiture. Et cet habitant nous dit encore, nous payons pourtant des impôts, comme tous les autres Israéliens, mais la municipalité ne collecte pas les ordures. Nous avons des eaux usées dans la rue, des rats. C'est comme ça qu'ils font pression sur nous pour que nous partions. Donc, c'est ce qu'on appelle le nettoyage ethnique. Alors, aujourd'hui, une vingtaine de familles israéliennes, des colons, donc, se sont installées dans 6 appartements et immeubles au milieu des habitations palestiniennes, après avoir acheté les terres à des propriétaires palestiniens pour d'énormes sommes d'argent. Et ils ont même essayé de les soudoyer, d'après ce que nous dit un article du quotidien israélien Haaretz, qui dit que les Israéliens ont offert à des résidents les services de travailleurs du sexe en échange de la vente de leur propriété. C'est quand même incroyable. Donc, après l'arrivée des colons dans le quartier, le gouvernement a construit même un commissariat de police près de l'une de leurs habitations. Et les colons font régulièrement irruption, accompagnés de cette police, dans la vie privée des Palestiniens, à leur domicile. Ils attaquent, ils arrêtent des résidents, y compris des enfants, comme on le voit souvent. Cet habitant de Silvan nous dit encore, nous ne disons pas que nous voulons de nouveaux logements, nous voulons garder nos propres logements, nous voulons juste qu'Israël nous laisse tranquille. Voilà. Donc c'est une affaire à suivre par rapport à ces familles de ce quartier. Voilà, l'émission est terminée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une heure en Palestine. Merci à Sidi et bonne soirée à tous. Bintish Shalabi.